Le psaume 16, versets 8 et 11. J'ai eu l'Éternel constamment présent devant moi. Puisqu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. Verset 11. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a un rassasiement de joie devant ta face et des délices à ta droite pour jamais. Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai pensé donner suite à la méditation qu'on a eue la semaine dernière sur les réflexions bibliques pour le chrétien célibataire. J'ai pensé y faire suite en approfondissant encore parce qu'on n'a pas tout touché. On n'a pas tout touché. Et il y a ce cantique vraiment très beau, qui donne vraiment du sens, encore plus de sens, à cette expérience, notre expérience que nous faisons en tant que disciples du Seigneur Jésus, lorsque nous sommes confrontés aux difficultés, aux obstacles qui se trouve sur le chemin qui nous mène jusqu'aux portes de l'éternité. C'est le cantique numéro 309 des hymnes et louanges où nous lisons la croix que Dieu me donne à porter ici-bas et jointe à la couronne qui ne se flétrit pas. Celui qui me l'impose se nomme mon sauveur. Sur lui, je me repose. Il est mon défenseur. Le premier sur lui-même, il a chargé la croix. Après lui, puisqu'il m'aime, dois-je en craindre le poids? Jésus en qui j'espère et qu'il a pris sur lui me la rendra légère. Il est mon sûr appui. C'est lui dont la sagesse me trace mon chemin. Lui qui, dans ma faiblesse, me tend toujours la main. C'est lui qui renouvelle ma force chaque jour. Jamais ce Dieu fidèle n'a trompé mon amour. Prends sans tristesse, ô mon âme, ta croix. Du Seigneur, la sagesse en mesure le poids. La douleur qu'il t'envoie bientôt disparaîtra. D'une éternelle joie, ton Dieu te comblera. Je pensais que ça exprimait si bien notre expérience, plus particulièrement en ces derniers jours. Et plus particulièrement encore dans l'expérience du célibat. Parce que l'expérience du célibat, ce n'est pas simplement le fait de ne pas avoir de femme, c'est ou d'homme. C'est une expérience à laquelle tous peuvent s'identifier, que nous soyons mariés ou célibataires, parce qu'il s'agit du sentiment de solitude auquel nous sommes tous confrontés, étant tous déchus de la gloire de Dieu, comme c'est écrit dans Romains chapitre 3. Et donc, étant tous déchus de cette gloire, du caractère pur et saint de Dieu, étant séparés de Dieu par le péché, nous avons tous inévitablement fait cette expérience de la solitude. Et même dans la marche chrétienne, cette expérience de la solitude souvent nous poursuit comme une ombre, parce que nous ne sommes pas encore arrivés, comme l'apôtre Paul lui-même le disait, dans Philippiens, je crois que c'est chapitre 3, nous ne sommes pas nous-mêmes arrivés à la perfection. D'où nos difficultés avec cette expérience de la solitude, parce que la solitude n'est rien d'autre qu'un vide qui n'est pas comblé, où Dieu ne désire que de rentrer. Mais Dieu, parce qu'il est tellement, c'est un Dieu d'un tel amour, il respecte notre liberté. Et donc, c'est pour cela souvent que nous souffrons. Et aujourd'hui, frères et sœurs, c'est un petit peu différent en ce que, je ne sais pas encore le nom de cette étude, mais une chose est sûre, cela a à voir avec notre sentiment d'accomplissement et de nos plus grandes attentes. C'est ce sujet-là que j'aimerais que l'on puisse contempler aujourd'hui, à défaut de pouvoir dire étudier, parce que j'aimerais par la grâce de Dieu que ça devienne quelque chose de vivant. Et c'est pour cela que il faut que je donne mon témoignage. Non pas parce que j'ai envie de parler de moi-même, mais parce que de simplement aborder la théorie, c'est nécessaire et c'est bien, mais souvent, ça ne permet pas d'arriver à un sentiment personnel pour l'auditeur ou même pour le prédicateur, un sentiment personnel de la grâce de Dieu, une réalisation intime de l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit dans, je crois que c'est Apocalypse chapitre 12, que les chrétiens, ils ont vaincu le diable par le sang de Jésus, le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Comme c'est écrit, j'y reviens brièvement, pour ne pas écorcher la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu, le diable, par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. Comment vainquons-nous le diable? Comment ces personnes-là, ces 144 000, ont-ils vaincu le diable? Par le sang de l'agneau de Jésus et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Ou comme c'est écrit dans la version anglaise, par la parole de leur témoignage. Et donc, j'aimerais aujourd'hui donner mon témoignage. Mon témoignage en rapport avec notre étude précédente. En rapport avec les difficultés qu'affronte le chrétien dans son expérience du célibat. Moi-même, depuis très jeune, j'ai toujours contemplé le mariage comme le sommet du bonheur, comme l'accomplissement de tous les désirs les plus chers qu'un homme puisse avoir. Ça a toujours été quelque chose que j'avais à l'esprit. Sans pour autant avoir vécu ou avoir été élevé dans une famille chrétienne. Ce n'était pas mon passé. Et sans pour autant être moi-même un grand séducteur, tout au long de ma vie, la perspective du mariage un jour a toujours été à l'arrière-plan de mes pensées. J'ai longtemps idéalisé le mariage comme la destination finale où je parviendrai enfin au bonheur et à la satisfaction qui ne me semblait exister que dans mes plus grands rêves et aussi dans les fictions hollywoodiennes. Et puis, quand j'ai fait la rencontre de Jésus, ma vie a totalement basculé. J'ai trouvé un bonheur et une joie qui n'est pas de ce monde. La satisfaction que j'ai appris à trouver dans la puissance de Dieu et dans la plénitude de la présence du Saint-Esprit en mon corps et en mon esprit, cette satisfaction-là, elle a comblé le vide douloureux qui m'avait été laissé comme un héritage de Dieu dès ma naissance en vue de ma conversion. Parce que comme nous lisons dans Jean chapitre 1, Jésus est la lumière qui éclaire tout homme qui naît dans le monde. Et ce vide douloureux, j'ai senti que la présence de Dieu en moi, en mon corps et en mon esprit a comblé ce vide que Dieu a créé et a laissé là en chaque être humain à cause de notre séparation d'avec lui, nous le ressentons. Et quand je suis venu à Jésus, que je l'ai rencontré, j'ai senti une puissante réalisation où Dieu a comblé ce vide douloureux en moi. Et je peux honnêtement et sincèrement dire que Dieu avait merveilleusement exaucé mes plus profonds désirs inexprimés. J'avais des désirs, mais ce désir-là que je n'avais jamais exprimé ni à moi ni à d'autres, Dieu l'a merveilleusement exaucé quand j'ai fait la rencontre de Jésus-Christ tel qu'il est présenté dans sa parole et que je me suis repenti de mes péchés à Dieu par les mérites et le sang de Jésus-Christ. Mais en dépit maintenant, en dépit de toutes ces merveilleuses expériences que Dieu m'a données et que j'ai partagées avec lui dans la réalisation grandissante de son amour pour moi pécheur à travers le sang de Jésus, j'ai continué de nourrir au plus profond de moi-même, tout au long de mon expérience chrétienne, l'espoir que je me marierai un jour et qu'un jour j'accomplirai mon attente d'enfance. Cette attente que j'avais eue depuis tout jeune. En dépit de toutes ces merveilleuses expériences que j'ai faites avec Dieu, j'ai continué de nourrir au plus profond de moi-même l'espoir de l'accomplissement de mes plus ferventes attentes du mariage. Ici, frères et sœurs, je partage quelque chose, c'est très délicat, mais je le fais parce que j'aime le Seigneur et parce que je veux rendre un témoignage pour sa gloire. Pas simplement en rendant juste mon témoignage, mais pour que mon témoignage puisse fortifier d'autres à rendre le leur. Et quand bien même personne ne vous entend, Dieu sait, et Dieu est témoin, que si vous faites une décision, pas en faisant une décision « je me marierai » ou « je ne me marierai pas » ou « je fais vœu de célibat » comme nous l'avons vu la semaine dernière, ce qui n'existe pas dans la parole de Dieu, mais en acceptant ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, brièvement, par la grâce de Dieu, en acceptant cette satisfaction à laquelle j'ai fait référence et que j'avais moi-même, dont j'ai moi-même fait l'expérience au début de ma marche chrétienne, quand j'ai fait cette rencontre de Jésus. Et que vous avez peut-être aussi fait cette expérience lorsque vous avez premièrement appris à connaître le Seigneur, si vous l'avez fait. Et donc c'est pour ça que je partage ces choses, non pas parce que j'estime que nous avons tous besoin de raconter les secrets personnels de notre vie, ce qui n'est pas le cas. Mais lorsque nous prêchons la parole, afin de pouvoir donner de la crédibilité à la parole, j'ai estimé bon de partager cet aspect de moi-même pour diriger à la fois mes yeux et les vôtres vers la puissance satisfactrice de la parole de notre Dieu. Je poursuis. Hein. Et donc, à travers les années, par contre, à travers les années, toutefois, ma connaissance approfondie de la parole de Dieu et surtout ma conviction intelligente et biblique de l'imminence du retour de Jésus-Christ a fait croître en moi, cette connaissance approfondie de la parole de Dieu et de l'imminence du retour de Jésus-Christ a fait croître en moi, parallèlement, le sentiment qu'il ne me serait pas donné de marier en cette vie. Et pas du tout, pour être plus clair. Non pas que j'enseigne qu'il y aura le mariage dans l'autre vie. Ce que Jésus a dit n'existerait pas. Parce qu'il a dit, dans le ciel, les hommes sont comme les anges, n'est-ce pas? Pour répondre à la question des Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Jésus a dit que dans l'essence, que dans le ciel, il n'y a pas de mariage. Le caractère vif et chargé d'une telle réalisation, telle que moi-même je l'ai faite. J'en suis venu à ce sentiment qu'il ne me serait pas donné de marier en cette vie, par rapport aux enseignements de la parole de Dieu, mais surtout vis-à-vis et en raison de notre connaissance sur l'imminence du retour de Jésus, parce que nous vivons en ces derniers moments de la dernière génération. Et la souffrance que cette conviction répétée a souvent créée en moi, seuls ceux qui l'ont déjà ressentie peuvent la comprendre. Seuls ceux qui ont déjà ressenti la souffrance d'avoir ce sentiment qu'ils ne se marieraient pas, quand bien même ce fut leur plus cher désir depuis leur plus tendre enfance. Et donc la souffrance que cette conviction-là que j'ai eue à plusieurs reprises, cette conviction répétée a souvent créé en moi, vous pouvez la comprendre si vous l'avez ressentie. C'est cette souffrance-là, ajoutée à toutes les autres, qui m'a donné la force, l'inspiration et la motivation de faire les choses pour le Seigneur auquel je suis naturellement opposé. Et c'est cette souffrance qui m'a donné de faire l'expérience des paroles de l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Versets 9 à 11. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. C'est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les opprobres, dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pardon, c'était jusqu'au verset 10. Lorsque je suis faible, lorsque je me sens faible, lorsque je suis découragé, je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, me glorifier sans aucun but? Non, afin que la force de Christ habite en moi. Et il disait cela en réponse aux paroles de Jésus, parce qu'il avait prié trois fois le Seigneur de le délivrer de cette écharde dans la chair que Dieu avait permis de rester en Paul, quelle que fût cette écharde. Je pense que c'était son problème de vision, parce qu'il avait un problème, l'apôtre Paul, de vision. Il avait des problèmes de vue, une cécité importante. Et il a dit, trois fois j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer de cette écharde. Mais il m'a dit, le Seigneur Jésus, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Et donc souvent, nous nous posons la question, que ça soit le célibat ou n'importe quoi d'autre. Tant que c'est une faiblesse pour nous, tant que c'est une souffrance, le Seigneur dit, ma grâce te suffit dans cette condition-là. Pourquoi? Parce que ma force s'accomplit dans la faiblesse. Et donc c'est cette expérience que moi aussi, je peux déclarer comme ayant partagé et ayant été fait participant aux souffrances du Seigneur Jésus, afin aussi de vivre avec lui dans la gloire. Parce que, comme on le dit souvent, avant la couronne, il y a la croix. Et d'où, notamment, la signification profonde de ce cantique où nous lisions, prends sans tristesse, ô mon âme, ta croix. Du Seigneur, la sagesse en mesure le poids, la douleur qu'il t'envoie bientôt disparaîtra. D'une éternelle joie, ton Dieu te comblera. Et la première stance, le premier verset, la croix que Dieu me donne à porter ici-bas est jointe à la couronne. Et donc il y a vraiment une vive représentation ici de l'accomplissement de la force de Christ dans notre faiblesse. Comme l'apôtre Paul disait, je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités afin que la force de Christ habite en moi. Comment me glorifierai-je dans ces infirmités qui sont les miennes? Je m'en glorifierai en ce que j'y discernerai la providence permissive de Dieu par laquelle il oriente mes affections vers lui qui sera le seul soulagement dans ces détresses-là, ces souffrances-là, ces angoisses-là. Afin que la grâce, la force de Christ habite en moi. C'est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les opprobres, dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je me saisis des promesses de Dieu en Jésus-Christ. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Lorsque j'ai la foi. Et donc, frères et sœurs, pour poursuivre, c'est la méditation et la réalisation personnelle de ces sujets-là qui m'ont permis d'accumuler des réponses intimes et significatives qui me permettent aujourd'hui d'entrevoir, sans un mariage au milieu, le bonheur et la félicité suprême des saints dans le royaume éternel de Dieu. C'est cela qui me permet de saisir par la foi l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. En toute réalité. Sans que ce soit uniquement dans ma tête, mais que mes affections y soient aussi posées. Et ce sont ces réponses-là, du moins en partie, que j'aimerais vous partager maintenant. Les réponses que, à travers les années, j'ai pu accumuler de la parole de Dieu vis-à-vis de ma propre situation. Et donc, frères et sœurs, si vous êtes mariés, eh bien, j'espère que cette méditation ne vous sera pas insupportable, mais que vous pourrez aussi, comme moi, en retirer la bénédiction. Parce qu'il s'agit, comme je l'ai dit précédemment, d'une recherche qui concerne toutes les catégories de personnes. Parce que c'est un besoin que nous avons tous. À la différence seule que dans le mariage, c'est plus difficile de ressentir ce besoin. Attention, je dis sans expérience personnelle, mais je crois de ma connaissance de la parole de Dieu que dans le mariage, c'est plus difficile de ressentir ce besoin parce que nous avons la compagnie d'une autre personne pour pallier la souffrance de la solitude. Si vous voyez ce que j'entends par là. Alors que lorsque vous êtes seul, qui plus est, lorsque vous êtes seul et sans église que vous pouvez fréquenter physiquement, comme c'est souvent le cas dans les derniers jours, parce que j'ai déjà communiqué avec de nombreux croyants, ne serait-ce que dans la France, et si vous êtes fidèle à la parole pure de Dieu, eh bien, vous, en obéissant à la parole, vous vous retrouverez vous-même dans le sentiment de votre nécessité de vous éloigner, vous séparer de ceux qui ont la forme de la piété, mais qui en renient la force, comme c'est écrit, je crois, dans 2 Timothée, chapitre 3. De ces personnes-là qui, dont l'apôtre Paul cite toutes sortes de traits de caractère mauvais et qui, en plus, sont chrétiens. Sans parler d'adventistes. Et c'est souvent l'expérience, frères et sœurs, c'est que vous voulez appartenir au peuple du message des trois anges, mais souvent ceux qui se rassemblent et qui professent le nom de Christ et qui se réclament du nom d'adventiste sont tout sauf ces deux choses, sont tout sauf chrétiens, sont tout sauf adventistes. Ils ne représentent pas Jésus-Christ dont ils se réclament le nom. Et ils n'attendent pas Jésus de telle manière que l'on puisse le voir par leurs paroles, leurs actes et leur atmosphère. Et donc, cette solitude, si vous êtes fidèle, vous la ressentirez. Si toutefois, je dis bien, nous n'essayons pas d'étouffer, c'est un élément important, ce sentiment de solitude par les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair, quels qu'ils puissent être, ou par des entretiens prolongés avec des connaissances ou même avec des personnes qui, comme je l'ai dit, font profession de foi au message des trois anges. C'est possible d'étouffer ces souffrances que Dieu essaie de faire ressortir à la surface. C'est possible de les étouffer en remplissant son agenda, remplissant son temps. Les choses que nous faisons, que nous regardons, que nous écoutons, permettent souvent d'oublier. Mais lorsque nous oublions nos souffrances, eh bien, nous n'y remédions pas. Mais Dieu veut que nous y remédions. Et donc, c'est la raison pour laquelle je disais que dans le célibat, c'est souvent plus facile de ressentir cette souffrance. Mais de l'un comme de l'autre, il est possible de l'étouffer. Mais donc, frères et sœurs, si aujourd'hui, vous venez écouter la parole de Dieu avec ce sentiment sous-jacent d'un désir de trouver la satisfaction. La satisfaction avec le grand L. Eh bien, c'est en vue de satisfaire, de pourvoir à ce désir que je voudrais vous partager ce message. Et donc, je l'ai déjà fait un peu en vous partageant certaines choses, mais pour que nous ayons une réelle introspection et une réelle solution vis-à-vis de ces choses que nous trouvons en nous qui nous font souffrir, il nous faut recevoir les réponses de la parole de Dieu directement. Quoique un témoignage puisse être bénéfique, sur le long terme, c'est la parole de Dieu par laquelle Dieu écrit en nous sa loi, en nos cœurs, et par laquelle Dieu crée en nous un cœur nouveau. C'est par cette parole que nous sommes régénérés, que nous sommes purifiés, que nous sommes sanctifiés. Et puisse Dieu nous accorder son esprit pour le temps restant de cette méditation, c'est ma prière. Et donc, parmi ces réponses, j'en ai reçu de nombreuses, mais parmi les réponses en rapport avec le célibat et le mariage que le Seigneur m'a donné à travers les quelques années que je l'ai connu, eh bien, il y a celle-ci que j'aimerais vous partager. Il s'agit d'un contraste fascinant de deux types de déclarations du Seigneur. Le premier type de déclaration du Seigneur, vous le trouvez dans Proverbes chapitre 18. Encore une fois, frères et sœurs, si vous êtes mariés ou si vous êtes dans une condition où vous ne ressentez pas les choses que j'ai exprimées vis-à-vis du célibat, je m'en excuse. Puissiez-vous prendre patience ou ignorer cette méditation, quand bien je crois tout de même et je suis convaincu qu'elle peut être bénéfique à toutes les catégories. Donc, ceci étant dit, nous tournons vers Proverbes chapitre 18. Proverbes chapitre 18. Et verset 22. Donc, si vous êtes un célibataire et que vous avez longtemps réfléchi à la question du célibat et de vos réalisations, de vos sentiments et peut-être de vos souffrances, très certainement, eh bien, c'est peut-être une déclaration qui vous est déjà venue à l'esprit et sur laquelle vous avez déjà réfléchi. Maintenant, j'aimerais ajouter quelque chose de plus sur ce que moi j'ai trouvé. Proverbes chapitre 18, verset 22. Vous m'excusez, je bouge les moustiques. Celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Donc vous voyez, si vous avez une longue attente, de nombreuses années derrière vous, d'avoir désiré, d'avoir attendu, d'avoir soupiré après le mariage, que ce soit pour une femme ou pour un homme, eh bien, si vous tombez sur cette déclaration de Dieu, nous croyons en l'inspiration, c'est inspiré de Dieu, eh bien, cela peut devenir un obstacle si vous ne faites pas attention, si vous voulez vous attacher à cette promesse sans tenir compte des autres choses que Dieu dit. Donc, si vous lisez ça sur de sa valeur seule, vous pourriez être tenté de dire à Dieu, voilà, c'est une faveur qu'il obtient, la personne qui trouve une femme ou la femme qui trouve un homme. Mais c'est plutôt, je préfère m'en tenir au texte, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et donc vous disiez, il faut que je trouve une femme pour trouver le bonheur. Ce qui est intéressant, c'est dans la Bible Martin, comme c'est écrit d'ailleurs dans la Bible King James, c'est écrit comme ceci. Celui qui trouve une digne femme trouve le bien et il a obtenu une faveur de l'Éternel. Donc, c'est comme c'est écrit dans la Bible King James, c'est « He that findeth a wife findeth a good thing ». Donc, il n'est pas vraiment question de bonheur, mais je respecte la Bible Osterwald tout de même. La Bible Martin nous dit « Celui qui trouve une digne femme trouve le bien, ou un bien, comme c'est écrit en anglais, et il a obtenu une faveur de l'Éternel ». Une faveur. Notez bien ces mots-là. C'est important que nous accrochions à chaque parole de Dieu. Donc, celui qui trouve une digne femme trouve le bien et il a obtenu une faveur de l'Éternel. La Bible Martin. Et en complément, dans Proverbe chapitre 19, verset 14, nous lisons « Une maison et des richesses sont l'héritage venu des pères, mais une femme prudente est un don de l'Éternel. » Une femme prudente est un don de l'Éternel. Et donc vous pensez peut-être, oh, il me faut ce don. Vous voyez comment la chair, ou plutôt les affections d'antan, peuvent vous jouer des tours dans votre lecture de la parole de Dieu. Donc moi-même, quand j'ai lu souvent ces choses, c'était très difficile pour ne pas justifier des anciens désirs, des anciennes attentes qui semblent en tout point innocentes. Mais le Seigneur m'a aidé. Le Seigneur, ou du moins le Seigneur a tenté de m'assister et de m'ouvrir les yeux. Et c'est ce que je vous partage aujourd'hui. À travers les années, j'ai trouvé d'autres passages qui ont pris de plus en plus d'ampleur dans leur impact sur mon cœur. Donc ces choses-là que nous venons de lire avaient un impact, mais voici, dans ce qui suit, des passages qui ont pris de plus en plus d'ampleur dans leur impact sur mon cœur. Dans Proverbes, encore une fois, chapitre 8, versets 32 à 35. Le verset clé, c'est le verset 35, mais c'est important de lire à partir de plus haut parce que on sait de qui est en train de parler. Ou plutôt, on commence à avoir un indice. Maintenant donc, Proverbe 8, 32, verset 32, maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi. Heureux ceux qui garderont mes voies. On parlait de bonheur juste avant. Heureux ceux qui garderont mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage et ne la rejetez point. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille à mes portes chaque jour et qui garde les poteaux de l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve, trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Et donc, vous voyez ici, en mettant les deux passages en contraste, vous avez d'une part, celui qui trouve une femme trouve le bien, ou un bien, comme c'est écrit en anglais, il a obtenu une faveur de l'Éternel, mais celui qui me trouve, dit Dieu, trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. La faveur. J'aimerais que l'on puisse absorber. Ça m'a pris de nombreuses années pour absorber. Je connaissais ce passage. Ce passage me revenait très souvent en mémoire. Mais je ne pouvais pas m'amener à accepter que Dieu m'offrait non le mariage, mais la vie. Ça semble absurde, n'est-ce pas? Mais c'est l'emprise que peuvent avoir sur nous des affections mal dirigées et des désirs longtemps nourris. Si vous l'avez longtemps nourri, ça commence à devenir une partie de vous-même. Ça commence à s'écrire sur votre ADN. C'est comme cela que lorsque des hommes et des femmes ont des enfants, ils se retrouvent souvent, en de nombreux aspects, reflétés dans leur postérité. Ils retrouvent des traits de caractère qui sont les leurs, mais ils leur ont transmis ces traits de caractère dans le sang, dans l'ADN. Et donc, lorsque nous pensons trop souvent d'une manière, cela commence à devenir une partie de nous, et pour que ce soit éradiqué, nous avons besoin d'une application interne et potente, puissante, de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut opérer une telle transformation. Cela ne suffit pas de dire « Oui, Dieu, Jésus va me changer parce que je crois en sa puissance. » Non. Nous avons besoin non pas simplement de croire en la puissance de Dieu, mais d'avoir un échange réel avec Dieu par la foi à travers sa parole. Vous allez me dire, ce n'est qu'une parole, ce n'est que du papier. Oui, c'est du papier, oui, mais ce n'est pas qu'une parole. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est avec puissance. Elle est avec puissance. Elle n'est pas nue. La parole de Dieu est avec puissance. La parole de Dieu elle-même est une puissance. Et c'est ce que j'aimerais que l'on puisse retenir avec nous. De telle sorte que lorsque Dieu nous rappelle sa parole, nous ne pensions pas ou nous ne nous permettions pas de penser, de réfléchir d'une telle manière que nous pensions, ce n'est qu'une parole, ce n'est que du papier. Non. Dans Jean, chapitre 1, il est écrit, la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est toute une exploration en soi. Que la parole est une personne. Et donc, je poursuis, nous avons lu « Celui qui me trouve trouve la vie. Celui qui me trouve, trouve la vie. Qui parle ici? Qui est en train de dire cela? Nous voulons absolument avoir ces choses très claires dans notre esprit. Celui qui me trouve, trouve la vie. Dans Jean chapitre 14, verset 6, nous lisons ce fameux passage où Jésus répondait à Thomas et Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Qu'a-t-il dit ? Je suis quoi ? Le chemin, je suis quoi ? La vérité et je suis, dit-il, la vie. Et donc, il peut dire, car celui qui me trouve, trouve quoi ? La vie, puisqu'il est la vie. Et il a aussi dit, dans Jean chapitre 11, verset 25, à Martha, après qu'il lui ait dit, crois-tu ? Allons-y, parce que j'ai oublié exactement les paroles, dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, verset 23, Jésus lui dit, ton frère, Lazare, ressuscitera. Marthe lui répondit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis quoi ? Le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et celui qui me trouve, trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Il s'agit bien ici de Jésus-Christ qui s'adresse à nous de manière très personnelle. Et vous allez aussi dans Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. Verset 13. On parle ici de bonheur. On parle ici de bonheur. On avait lu dans la Bible Osterwald que vis-à-vis de celui qui a trouvé la femme, il est écrit qu'il a trouvé le bonheur. En réalité, le texte est plutôt en train de dire qu'il a trouvé une bonne chose, mais cela suscite notre réflexion quant au bonheur, n'est-ce pas ? Et souvent, pour se recentrer sur notre réflexion principale, eh bien, le désir d'avoir un époux, eh bien, c'est directement relié à la recherche du bonheur. N'est-ce pas? Lorsque moi-même, dans mon expérience passée, quand j'étais hors de Christ, même quand je n'avais pas une connaissance de l'importance de la loi des 10 commandements de Dieu, eh bien j'avais déjà un égard pour le mariage et, ce qui est le plus important, j'estimais au plus profond de moi-même que le mariage était la destination finale pour atteindre le bonheur suprême. Toujours au-delà de toutes mes expériences et de toutes les choses que je traversais, ce petit havre de paix représentait pour moi l'accomplissement de tous les désirs et le bonheur suprême. La cerise sur le gâteau de la vie qui, à l'époque, semblait prometteuse. Mais à travers le temps, j'ai réalisé que le diable était au gouvernail du monde C'est à ce moment-là que petit à petit le Seigneur m'a guidé vers lui-même. Et donc ici nous lisons, je reprends, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui avance dans l'intelligence. Car il vaut mieux l'acquérir que de gagner de l'argent, et le revenu qu'on en peut tirer vaut mieux que l'or fin. Elle, la sagesse, est plus précieuse que les perles, et toutes les choses désirables ne la valent pas. Il y a de longs jours dans sa droite, des richesses et de la gloire dans sa gauche. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers conduisent à la paix. Elle est l'arbre de vie pour ceux qui l'embrassent, et tous ceux qui la conservent sont rendus bienheureux. Et on a une confirmation au verset 19 de cette sagesse, de l'identité de cette sagesse. L'Éternel a fondé la terre par la sagesse et agencé les cieux par l'intelligence. C'est exactement ce que nous lisons dans Jean chapitre 1, et je crois que c'est le verset 3. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La sagesse, la parole, Jésus-Christ. Heureux l'homme qui a trouvé cette sagesse, qui a trouvé Jésus. Elle est plus précieuse que les perles. Et toutes les choses désirables, toutes les choses que nous ayons pu désirer dans notre vie, ne la valent pas. Ces voies sont des voies agréables, et tous ces sentiers conduisent à la paix. Elle est l'arbre de vie pour ceux qui l'embrassent, et tous ceux qui la conservent sont rendus bienheureux. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Donc nous cherchons le bonheur. Nous cherchons le bonheur. Nous le cherchons d'une manière constante. Nous cherchons la satisfaction. Nous cherchons le bonheur suprême. Eh bien, si nous avions la foi, nous ne le chercherions plus autre part que là où Dieu nous a promis que nous pouvons le trouver. Que cherchons-nous? Que cherchez-vous, frères et sœurs? Est-ce que vous cherchez la satisfaction? Est-ce que je cherche le bonheur? Est-ce que j'ai trouvé le bonheur? Est-ce que je suis satisfait? Et si je ne suis pas satisfait, pourquoi? Et Dieu peut-il me satisfaire? Je pose ces questions pour susciter, provoquer nos réflexions. Parce que si je sais où je peux être, où je peux trouver le bonheur, où je peux trouver la vie, pourquoi ne l'ai-je pas? C'est le manque de foi. Mais si c'est écrit ainsi, qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre l'expérience de ce que Dieu a prononcé? Vous allez encore avec moi à notre lecture biblique, psaume, le psaume 16. Il ne s'agit pas de questions superficielles, vous avez remarqué ici, parce que si vos plus chères attentes qui n'ont pas été satisfaites sont la raison pour laquelle vous n'êtes pas satisfait, pleinement, parfaitement satisfait en Dieu, eh bien, c'est important que nous abordions ces carrefours du cœur, comme on pourrait les appeler. Hein? Si à un carrefour, toutes les sorties sont fermées, eh bien, vous êtes tout le temps en train de faire le tour, vous ne pouvez aller nulle part, parce que les sorties sont bloquées. Parce que nous ne permettons pas à Dieu de faire ce qu'il veut avec nous. Dans Proverbes chapitre 16, verset 2. Pour dire ces choses-là, il faut arriver au sentiment, cette réalisation, et puis cette souffrance, et puis cet abandon. L'abandon au Seigneur de nos attentes, pour que ensuite nous ne nous attendions qu'à lui. Et nous attendions de lui le bonheur, et nous attendions de lui la satisfaction, et donc que nous le recevions de lui, et que nous recevions de lui le bonheur et la satisfaction. Le psaume 16, verset 2. J'ai dit à l'Éternel, avez-vous dit cela au Seigneur? J'ai dit à l'Éternel, tu es le Seigneur, je n'ai point de bien au-dessus de toi. L'Éternel est mon héritage et ma portion. C'est toi qui m'assures mon lot. Ma possession m'est échue dans des lieux agréables et un très bel héritage m'est échu. Je bénirai l'Éternel qui est mon conseil. Les nuits même, mon cœur m'instruit au-dedans de moi. J'ai eu l'Éternel constamment présent devant moi, puisqu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur se réjouit, et mon âme chante de joie, et ma chair même reposera en assurance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre, tu ne permettras point que ton saint voie la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a un rassasiement de joie devant ta face et des délices à ta droite pour jamais. Est-ce que vous avez noté ici le verset 10? Vous ne pouvez pas dire ça. Et d'ailleurs, l'apôtre, je crois que c'est l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2, versets 25 à 28, il citait ce passage et il disait à son audience que David, le patriarche, était mort et enterré. Mais si celui qui disait ces choses-là ne serait pas abandonné au sépulcre, tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Et il en revient à conclure que ce ne peut être que Jésus qui déclare ces choses-là. Et donc, vous voyez que Jésus disait cela. C'était aussi et premièrement le langage de son cœur et de son âme. Que disait-il ? Pour que nous puissions apprendre la foi de Jésus. Que disait-il ? C'est une foi. C'est une foi, frères et sœurs. De savoir que c'est vrai, cela ne suffit pas. Il faut le saisir. Et quand nous le saisissons, cela devient vrai pour nous. C'est vrai déjà, mais il faut que cela soit vrai pour vous et moi, frères et sœurs. Et comment cela devient ? Par la foi. Quelle foi ? Celle du Seigneur Jésus, parce qu'il disait cela, et c'était vrai pour lui. Que disait-il ? Tu es le Seigneur, je n'ai point de bien au-dessus de toi. Je n'ai point de bien au-dessus de toi. Autrement dit, je n'ai point d'espérance, d'attente, de désir pour me satisfaire au-dessus de toi, dans notre bouche. Lorsque nous adressons à Dieu, Seigneur, tu es le Seigneur, je n'ai point de bien au-dessus de toi. Tu es le summum, tu es le bonheur suprême. Celui qui me trouve, trouve la vie. Je te trouve, je trouve la vie. Tu es la résurrection et la vie. À savoir qu'il n'est pas la vie morte, il est la vie vivante. Il est la résurrection. Cela change tout. Cela change tout. Si c'est vrai, est-ce que c'est vrai ? Si c'est vrai, est-ce que c'est vrai pour vous ? Est-ce que c'est vrai pour moi ? Cela peut être vrai. Qu'est-ce qui fera la différence ? La foi. Quelle foi ? La foi de Jésus. De telle sorte que Jésus était-il célibataire ? Ok. Et que disait-il ? Apprenez, frères et sœurs, apprenons. Apprenons. Que disait-il ? J'ai dit à l'Éternel. Voilà ce qu'il disait. Il nous dit ce qu'il a dit. Il nous dit, voilà mes bien-aimés, voilà ce que j'ai dit au Père. De la même manière qu'il priait, et les disciples lui disaient, apprends-nous à prier, Jésus, apprends-nous, comment tu fais ? Il avait la foi. Quelle foi ? La foi de Jésus. J'ai dit à l'Éternel, tu es le Seigneur, je n'ai point de bien au-dessus de toi. Tout, Seigneur, tu es mon bonheur suprême. Je n'ai pas d'autre désir que de communier avec toi, que d'écouter et d'obéir à ta voix. Je ne trouverai pas d'autre satisfaction que celle que j'ai dans mon abandon à toi. Il continue. Verset 5. L'Éternel est mon héritage. Réfléchissez à ça, frères et sœurs. L'Éternel est mon héritage et ma portion. C'est toi qui m'assures mon lot. Mon héritage. Est-ce que les enfants, c'est un héritage ? Oui, c'est comme ça que la Bible en parle. Mais que disait Jésus ? L'Éternel est mon héritage. Tout ce qu'un homme peut être tenté de mettre en attente et en espérance dans sa postérité, Jésus le mettait dans son Père. Et ma portion.
Oh.
Vous réalisez, frères et sœurs, vous réalisez. Ce n'est pas du petit jeu ici que je vous partage, frères et sœurs. C'est la vie ou la mort. Ma possession m'est échue dans des lieux agréables. Et un très bel héritage m'est échu. Quel héritage ? Il vient de le dire. Vous réalisez un peu le genre de langage que le Seigneur Jésus tient. C'est presque blasphématoire lorsque nous entendons les enseignements chrétiens aujourd'hui. Ma possession m'est échue dans des lieux agréables et un très bel héritage m'est échue. Quel héritage ? Dieu ! Il dit « Dieu est un très bel héritage qui m'est échu ». C'est le même genre de raisonnement que nous avons réalisé et découvert vis-à-vis de ce fait que le célibat n'est pas une imposition, n'est pas une condamnation, mais c'est un don et c'est un appel. Et de la même manière, ici, nous voyons que Jésus ne considérait pas qu'il avait quelque chose d'autre qu'il puisse désirer au-dessus de Dieu, au-dessus de son Père et de notre Père. Je bénirai l'Éternel qui est mon conseil. Les nuits même, mon cœur m'instruit au-dedans de moi. Verset 8, j'ai eu l'Éternel constamment présent devant moi, puisqu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. Verset 11, tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a un rassasiement de joie devant ta face et des délices à ta droite, pour jamais. Pour jamais. Quel est le chemin de la vie ? Il me fera connaître. Qu'est-ce que c'est ? Devant sa face, en sa présence, à sa droite, il y a la satisfaction. Voilà comment il nous fera connaître et il nous fait connaître le chemin de la vie. Comment pouvoir avoir cette réalisation par la foi? Comment précisément? En gardant l'Éternel constamment présent devant moi, comme il le faisait. Puisqu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. Point ébranlé de mon abandon à Dieu, de l'abandon de mes affections à lui. Point ébranlé de ma détermination à l'aimer de tout mon cœur. Comment ? Lorsque j'exerce ma foi en son existence, en sa présence, ou constamment présent devant moi. Devant moi, devant quels yeux ? Devant les yeux de la foi. Devant les yeux de ma foi. Parce que comme c'est écrit, nous lisons, que le juste vivra par la foi. C'est une vie, nous pouvons la vivre parce qu'il nous dit que celui qui me trouve, trouve la vie et par la foi, nous vivons de cela. Nous vivons de la promesse parce que la promesse est vraie, elle est digne de foi, mais faut-il encore que nous exercions la foi. Mes frères et sœurs, je veux témoigner aujourd'hui que j'ai exercé ma foi en Dieu et que j'ai ressenti la véracité de sa promesse, qu'il est digne et qu'il est fidèle à sa parole. C'est ma prière que toutes ces choses qu'on a pu méditer aujourd'hui, cela devienne pour nous une réalité. Que cela devienne pour nous une vérité. puissions-nous faire et croître dans l'expérience de cette déclaration affirmative de Dieu qui nous promet que notre existence trouvera tout son sens et toute sa raison d'être en Christ. C'est ma prière. Et il nous fera connaître le chemin de la vie. Parce qu'il nous l'a promis, celui qui me trouve, trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Puissions-nous désirer cette faveur suprême, ce bonheur suprême de connaître le Seigneur Jésus, la sagesse. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.